les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Reporter, critique de cinéma, écrivain, James Seji, homme du Sud, était né en 1909 dans le Tennessee. Son père mourut dans un accident de voiture alors qu'il était enfant. Lui mourut bien trop jeune, à 45 ans, d'une crise cardiaque dans un taxi. Le temps de signer quelques romans, La veillée du matin, Une mort dans la famille, de la poésie, des essais sur le cinéma, quelques scénarios et pas des moindres, celui d'African Queen et celui de La nuit du chasseur. Et aussi The Tramp's New World, un scénario écrit pour celui qu'il admirait par-dessus tout, Charlie Chaplin. Le film ne vit jamais le jour, mais ils devinrent amis. Et puis il y a ce livre, unique, « Louons maintenant les grands hommes », composé avec le photographe Walker Evans, au fond de la plus profonde misère de trois familles de métayers d'Alabama dans l'été de 1936. En 1981, Les Nuits magnétiques traçaient le parcours de la vie trop brève de James Seji.
Bonsoir. Ce soir, parcours dans la vie de James Seji par Olivier Keplin et Mehdi Elhadj. Maintenant, l'émission est commencée. Vous êtes à côté de votre radio. Asseyez-vous. Vous allez écouter un extrait de la symphonie en ut majeur de Schubert. Asseyez-vous, mais je ne veux pas dire simplement « pour écouter ». Ceci qui vient est ce que je veux dire. Portez-le à la puissance maximum. Maintenant, étendez-vous sur le plancher. Approchez votre oreille de la source sonore au plus près possible. rester là. Effacez le plus possible votre respiration. Demeurez immobile. Ne mangez pas, ne fumez pas, ne buvez pas. Concentrez toutes vos facultés dans ce que vous entendez. Entendez de tout votre corps. Vous n'entendez pas la musique de façon aimable. Si vous en souffrez, réjouissez-vous. D'aussi près que vous le pourrez jamais, vous atteignez cette musique. Vous êtes en elle, pas seulement en elle, vous êtes cette musique elle-même. Votre corps n'est plus votre forme et votre substance. Il est forme et substance de la musique. Est-ce que ce que vous entendez est joli, ou beau, ou légal, ou tolérable dans la société polie, ou aucune autre ? Ce que vous entendez est, par-delà toute computation, musique sauvage, et dangereuse, et meurtrière à tout équilibre de la vie humaine, telle que la vie humaine est. Et rien ne peut égaler le viol que la musique opère, sur toute cette mort. Rien, sauf n'importe quoi. N'importe quoi dans l'existence ou le rêve, n'importe où, grossièrement perçu vers sa dimension vraie. Texte d'après James Adji. novembre, naissance de James Rufus Adji à Knoxville, Tennessee. 1955, 16 mai, mort d'Adji à New York.
Un être très nocturne qui adorait la nuit. toujours aimé parler à ses amis la nuit, rester tard. Et c'était toujours le dernier à partir quand il y avait des réunions. Et il aimait la nuit et il travaillait aussi la nuit. Puis au petit matin, il partait, il avait trouvé une église où il allait quelquefois suivre des services religieux très tôt le matin pour garder ce contact. Et puis il avait aussi des grands élans d'indignation contre la religion. Et donc c'est un être assez contradictoire.
Juste dans la conversation nocturne, vous avez un... Il y a un type que vous n'aviez jamais vu de votre vie qui vous est présenté par votre meilleur ami. Et... au miracle, le troisième, le type que vous n'avez jamais vu, se révèle intéressant. Alors vous avez un échange, vous avez l'illusion d'avoir un échange de vie avec lui, tout à fait passionnant. Et vous dites un peu des choses auxquelles vous n'avez pas réfléchi. Je crois que c'est souvent, assez souvent ça me semble-t-il, chez Edgy, il dit des choses auxquelles il n'a pas vraiment réfléchi, comme un intellectuel peut y réfléchir. C'est l'homme qui, je crois, encore une fois, je ne l'ai jamais vu, qu'il lançait des propositions à l'air. Ça retombait où ça pouvait. Il y avait toujours quelque chose parce qu'il y avait du génie dans son cas. Mais il ne cherchait pas à se contredire, à se rectifier. Ça tombait comme ça tombait, puis ça continuait. Et je crois que c'est ça l'histoire, en somme toute, du livre de L'ont maintenant les grands hommes. Par exemple, il voit cette fille qui deviendra institutrice. Et tout le monde est content parce qu'elle va devenir institutrice, elle va donc acquérir un statut social plus élevé, n'est-ce pas ? Et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il est amoureux d'elle et qu'elle est amoureuse de lui. Et naturellement, le lendemain, enfin je suppose, c'est pas sûr, mais je suppose que le lendemain tout ça est effacé. Mais il y a l'instantanéité des sentiments profonds. Et tout ça fait partie de la nuit.
Mais il écrit tout le temps ? Il écrit tout le temps, il va écrire ensuite pour Time, ce sera moins intéressant, enfin c'est... Il va écrire essentiellement des comptes rendus littéraires, et puis pour The Nation, des comptes rendus de films. Pour Edgy, il n'y a jamais eu de rupture, il a toujours écrit, et il a probablement été assez marqué par ce travail journalistique. Il se défendait bien d'écrire comme les autres écrivaient à Time et du jargon. Et il essayait justement, et il a toujours pris très au sérieux son travail. D'ailleurs, il travaillait de façon presque forcenée. Alors que les autres, ne prenaient pas si au sérieux leur travail. Lui, pour lui, c'était écrire un article, c'était écrire un poème sur aussi bien les chauves que l'orchidée. Il fallait toujours que ce soit quelque chose de plus qu'un article. Et il travaillait la nuit. Là aussi, il avait des habitudes de travail très curieuses, puisqu'il arrivait quand tout le monde partait. Et puis, il avait un électrophone dans son bureau et il le mettait le plus fort possible. Et c'était du Brahms, Beethoven, etc. Et il a écrit d'ailleurs à Firefly que... écrire comme ça dans un gratte-ciel vide de New York avec cette musique extraordinaire tout autour de lui, c'était pour lui une expérience assez excitante. Il cherchait comme ça, vous voyez, des choses pour s'exciter un peu, et il a donc écrit constamment, mais il s'est orienté vers un type de récit. Au départ, lui, il ne se voyait que comme poète. D'ailleurs, sa première publication, ça a été Permit Me Voyage. C'était des recueils de poèmes, dont certains sont très conventionnels et d'autres très marqués par cette écriture des EGN. Parce qu'il pensait que la poésie, une forme de poésie forme satirique de tout petit poème, qui était assez excellent d'ailleurs, inspiré surtout par Horace, les lecteurs d'Horace, Catulle. Et puis une poésie très lyrique ou alors une poésie narrative. Il aimait beaucoup les longs poèmes narratifs. Il en a écrit plusieurs, Anne Gardner, Don Juan, etc. Et ce serait sa forme de... ce qui correspondait le mieux à ce qui pour lui devait être l'écriture.
Thank you.
Walker Evans, célèbre photographe américain et ami de James Agee, affirmait qu'aux yeux de Jim, il n'était pas exclu entièrement que les humains fussent des êtres immortels doués d'une âme sacrée. Ces êtres humains sont le centre de l'œuvre d'Agee. C'est à leur rencontre qu'il va à travers son écriture. Avec Walker Evans, il parcourt l'Alabama, vit avec les familles des métayers les plus déshérités et ramène en 1936, à 27 ans, cet étonnant essai, roman, poème, reportage sur la vie des paysans du coton qu'est loin maintenant les grands hommes. Travail majeur de James Agee, c'est aujourd'hui autour de lui que se construira cette biographie. Fasciné par l'image, par la puissance du visuel, après ce travail en commun avec un photographe, il se plonge dans la réflexion sur le film et devient critique de cinéma à Life, Time, The Nation. Plus encore, il décide d'écrire des scénarios, ceux notamment de deux œuvres exceptionnelles, African Queen de John Huston et La Nuit du Chasseur de Charlton. Il laissera également un volume de poèmes où le rapport aux mots, au monde, est proche de celui d'un William Blake. Expérimentateur de forme, il nous dit que celles-ci sont toujours faites d'associations de contraires. Il écrira deux romans où réalité et vision se mêlent. Il écrivait des mots dans l'air pendant des nuits entières, disait Walker Evans. Il les dédiait à tous ceux qui, pour lui, avaient cherché la vérité, par exemple Joyce, Huston, Chaplin, des héros comme ceux qu'incarnait Bogart, mais plus certainement Art Crane ou le Christ. Animé par une rébellion résolue, une rébellion privée contre l'état du monde, il ne prenait que peu de repos et mourut en 1955, à 45 ans, d'une crise cardiaque dans un taxi.
Je crois que c'est une personnalité assez multiple et assez insaisissable, et que toute son œuvre, en fait, a essayé de cerner un petit peu les composantes à la fois géographiques, ethniques, artistiques, religieuses, etc., de sa personnalité.
Geneviève
Parce qu'il était au bon d'une famille... qui venait à la fois de, bon, comme tous les, beaucoup d'Américains, de différentes parties d'Europe, un peu irlandais, un peu germanique, etc., un peu huguenot, un peu épiscopalien. Et il s'est toujours penché, enfin, sur ses origines. Alors ça, ça a été une curiosité à peu près constante de sa recherche, à la fois dans son écriture, et puis dans l'organisation de sa vie affective. Je crois que, si vous voulez, il y a un être affectif très très profond dans Agee. D'ailleurs, il dit très souvent qu'il a subi son affectivité, car il était très sensible aux sentiments qu'il inspire aux autres, à ses relations d'amitié, et ses relations amoureuses avec les autres. Et il s'est vu comme un être très, très divisé. Alors, cette division, il l'a définie comme étant essentiellement entre deux pôles qu'on pourrait appeler l'un féminin, l'autre masculin, l'un très religieux, l'autre athée. Et en fait, qui se... définissait essentiellement par le monde maternel et toute la lignée du côté maternel, et puis son père et les ancêtres de son père. Alors du côté paternel, c'était un monde de paysans, enfin un monde d'Américains qui ont vécu essentiellement dans l'Amérique rurale, avec des qualités de pionniers, bien que certains d'entre eux aient accédé aux professions libérales. Enfin, je crois qu'il y avait des avocats, des instituteurs, etc., dans la famille. Mais le côté qui intéressait Agee, c'était ce côté paysan. Et son père était, lui, je crois, travaillé dans un bureau de poste. Mais pour lui, son père, c'était un paysan. Et lui-même a toujours considéré que ses vraies racines, c'était Knoxville, Tennessee, c'était les petits fermiers des environs de Knoxville. Il allait souvent voir ses grands-parents paternels qui habitaient une ferme à La Follette, près de Knoxville, et que c'était le hillbilly, c'est-à-dire un personnage, enfin ces montagnards, un peu, des êtres un peu frustes et rudes qui vivaient dans les montagnes du Tennessee.
Knoxville, été 1915. Nous sommes en train de parler en ce moment des soirs d'été à Knoxville, Tennessee, au temps où je vivais là, à mes yeux si bien déguisés en enfant. Le pâté de maison était un peu mélangé, assez enraciné dans le petit bourgeois, mais avec des extrémités en saillie. À quoi les maisons elles-mêmes correspondaient? Des maisons de dimension moyenne, s'accommodant d'assez bonne grâce du voisinage de maisons de bois bâties dans les dernières années du siècle, avec des jardinets sur le devant et sur les côtés, et des porches et des arbres dans les cours. Sur l'herbe folle et humide des cours, mon père et ma mère étendaient des couvertures. Nous sommes tous étendus là, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, et moi aussi je m'y repose. Tout d'abord, nous nous tenions assis, puis l'un d'entre nous s'est allongé, et ensuite nous nous sommes tous allongés sur le côté ou sur le dos, et ils ont continué de parler. Ils ne parlent pas beaucoup, et c'est sur un ton calme, de rien en particulier, de rien du tout en particulier, de rien du tout.
Puis du côté maternel, c'était des gens qui s'étaient installés d'abord dans le Middle West et sont venus plus tard dans le Sud. Sa grand-mère était une des premières femmes à avoir fait des études à l'université du Michigan, je crois. Son grand-père était très érudit, très fin. Et donc c'était un monde beaucoup plus raffiné de gens qui... Enfin, d'universitaires, etc. Et... il avait aussi beaucoup d'affinités avec ce monde-là, et c'est à son grand-père Tyler qu'il doit probablement son goût pour la lecture, le goût pour les discussions philosophiques, pour des considérations métaphysiques sur « bon Dieu, existe-t-il ou non ?» Et ce grand-père-là était athée, alors que sa mère, qui était la fille de ce grand-père, était très profondément religieuse. Et très souvent, il s'est senti comme extrêmement divisé. Alors, je crois que c'est... Cette division de son être qui finalement l'a le plus profondément marqué dans son travail d'écrivain. Some other spring I've tried to love, now I still cling to faded blossom. Fresh when worn, left crushed and torn, like the love affair I mourn. Some other spring, when twilight falls. Mémoire 1, John Huston. Ses habits étaient sombres et lustrés. Je n'arrive pas à l'imaginer dans un costume neuf. Il portait des chaussures noires râpées jusqu'au gris. Son col était froissé. À sa chemise manquait toujours un bouton et sa cravate s'effilochait. Au fond, il s'habillait pour avoir chaud et être décent. L'élégance de Jim était intérieure. Je doute qu'il se soit jamais préoccupé de son apparence, ou même qu'il se soit jamais regardé dans un miroir, sauf pour se raser. Il ne connaissait pas la vanité. Il se maintenait extrêmement svelte, se nourrissant de ce qui lui tombait sous la main,
et ne s'autorisant à dormir qu'au moment où il estimait n'avoir plus rien à faire.
Il y a eu un va-et-vient constant entre bon, le social et l'affectif, c'est-à-dire bon, les événements que toute son époque a traversé, qui ont été des événements assez fondamentaux si on considère le XXe siècle, notamment bon, par exemple la bombe atomique qui lui a inspiré une nouvelle espèce de parabole très très intéressante, et puis les événements intimes de sa vie affective. Et alors là, l'événement principal, ça a été la mort de son père. Et je crois que, dans une certaine mesure, la psychanalyse pourrait trouver en Eiji un terrain particulièrement riche et approprié à toutes les analyses psychanalytiques, dont moi je me suis un petit peu défiée ou méfiée. Mais il y a quand même là l'événement avec un grand E, qui a été un événement absolument crucial. Et. Qu'il a toujours cherché à comprendre, et l'écriture va devenir l'interprétation, la recherche d'une interprétation, de quelque chose de très subjectif, mais qui va être interprété en termes beaucoup plus objectifs. Et les événements donc, du monde social, l'événement social, qu'il soit de nature politique ou autre, vont être tout le temps ramenés à cet événement intime. Et vice-versa.
Seize mai, mort de James Adji, son père. 1918, été à St. Andrews, Tennessee. Madame Adji rencontre le père Fly. 1919-1923, Rufus Adji, à l'école épiscopalienne de St. Andrews. 1924, année à Knoxville. Madame Adji épouse le révérend Erskine Wright. 1925, été en France et en Angleterre avec Father Fly. 1925, septembre, entrée à Phillips Exeter Academy. 1925-1928, études à Exeter. 1928, septembre, entrée à Harvard. 1928-1932, études à Harvard, Adji écrit pour le Harvard Advocate.
Alors là, ça a été la coupure. Et il a vu ce départ vers le nord comme une trahison. Une trahison justement de l'héritage paternel. Il s'est beaucoup inquiété, il était très brillant, donc il a été admis très facilement à cette école de Exeter qui est assez un peu angélique, très élitiste, et tous les étudiants, les élèves qui sont allés à Exeter vont presque automatiquement à Harvard. Alors c'était une voie qui était toute tracée un peu devant lui et qui l'inquiétait énormément parce qu'il s'est vu tout d'un coup pris dans un autre monde. C'est très curieux parce qu'Eiji se voit comme très passif, enfin se voit parce que je ne sais pas dans quelle mesure. Enfin, on ne peut pas douter de sa sincérité, mais évidemment, c'est un peu l'image qu'il voulait donner de lui-même, comme subissant l'événement beaucoup plus que le dirigeant. Et alors, ces années à Exeter Harvard sont des années de grand malaise, où il n'arrête pas finalement de s'en prendre à l'institution académique, à ce milieu très... Bon, très universitaire, il se défend bien d'être jamais le bon élève, etc. Il fait tout ce qu'il peut d'ailleurs pour être très indiscipliné. Il passe devant des conseils de discipline plusieurs fois. Il se révolte, il n'observe pas les règlements du collège, il rentre tard, il disparaît, il fait des fugues. Enfin, je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'à Exeter et à Harvard, commence à apparaître une légende, la légende d'Eiji. Il était très beau, Il était toujours habillé avec beaucoup de négligence et il tenait à s'habiller comme un paysan, avec des grosses chemises de drap, avec des... avoir des manières très, très frustres. Il ne voulait pas... il était presque impoli. Puis d'un autre côté, c'est un aspect un peu paradoxal, il a quand même... Il s'est assez intégré à la vie des deux... Enfin, du collège et de l'université. Il est devenu un des personnages importants de sa promotion. Il a écrit, alors très tôt, il s'est mis à écrire et il a publié beaucoup de nouvelles et de poèmes dans l'Exeter Monthly Magazine et ensuite dans le Harvard Advocate, puis faisait partie de divers clubs d'animation culturelle, de cinéma bien sûr, puisque le cinéma était très tôt une de ses grandes passions. C'était avec son père d'ailleurs qu'il était allé au cinéma enfant et qu'il avait découvert les films de Chaplin et d'autres.
Jean Tarica.
La première fois que j'ai eu contact avec... avec James Agee, d'ailleurs c'était sans le savoir, c'était en voyant, j'étais encore lycéen à La Nuit du Chasseur, et La Nuit du Chasseur c'était un film un petit peu prestigieux qui passait très rarement, je crois qu'il est sorti en 56 à Paris, moi j'ai dû le voir dans les années 1962-63, et il était précédé d'une réputation d'un film un petit peu magique, un peu envoûtant, hein, le... Pariscope dit d'ailleurs dans son petit prière d'insérer un film beau et envoûtant comme la Bible. Et en fait, quand je l'ai vu, c'était une époque où j'étais, disons, cinéphile. Et la première correspondance que j'ai pu faire entre des images, donc celle de La Nuit du Chasseur, et d'autres images filmiques, c'était avec une version documentaire aussi du cinéma, qui était le film de Flaherty, qui était L'Homme d'Aran. Et curieusement, c'est la première fois que j'ai fait un peu le rapprochement entre ces images de type fictionnel qu'il y a dans La Nuit du Chasseur et des images documentaires dans L'Homme d'Aran. Et la chose qui frappe lorsqu'on est spectateur, c'est une épuration absolument parfaite de l'image, comme si on avait voulu assécher complètement tous les sens parasites qui peuvent exister pour ne rester que dans la relation de ce qui est essentiel, dans la relation, arriver au cœur signifiant de l'image. Et c'est donc plusieurs années après que je suis tombé sur Loin maintenant les grands hommes. Et donc je savais toujours pas à cette époque-là la correspondance qu'il y avait d'auteur entre La Nuit du Chasseur et Loin maintenant les grands hommes. Et je retrouvais à travers les images mentales qui viennent à l'esprit lorsqu'on lit Loin maintenant les grands hommes, cette même assaise dans l'image qu'il y a donc à la fois chez Flaherty, à la fois dans un ouvrage de fiction comme La Nuit du Chasseur et dans le livre de Agee.
29 octobre 1929.
Je ne suis pas sorti de la nuit. Je suis resté au bureau toute la semaine, pratiquement. Vers 11h du soir, nous avons eu la nouvelle du crack. Les gens ne comprenaient plus. C'était comme un coup de foudre.
What happened on the street?
Well, the streets, you had general confusion and all throughout the street.
Dans la rue, c'était la pagaille totale.
Anybody else? They thought something would be announced. It got so serious that very prominent people were making statements, like Mr. John D. Rockefeller Jr. was making a statement on the steps. I think it was
Rockefeller, pareil, il annonçait les nouvelles de la bourse sur le pas de sa porte dans la rue, pratiquement.
Alors, je crois que c'est important, c'est de voir aussi l'époque à laquelle Agee a commencé le journalisme. Ça a été les années 30 aux États-Unis et c'était une époque particulièrement fascinante. C'était la dépression et puis l'avant-guerre. C'était une époque de radicalisation de la part de la plupart des intellectuels. Donc il s'est trouvé à New York dans un milieu assez radical. Et même à Fortune, il y a eu à ce moment-là des gens, parce que Fortune, c'est quand même le journal qui défend le capitalisme américain, enfin le titre est sans équivoque, mais il y avait là des écrivains qui réfléchissaient à tous les problèmes sociaux que traversait l'Amérique à ce moment-là. Alors ça, pour Edgy, si vous voulez, quand on suit l'itinéraire de l'artiste et tout, c'est vraiment une période qui a été très importante parce qu'elle l'a confronté pour la première fois de façon très flagrante et ouverte et, à la réalité sociale. Et c'est ce va-et-vient dont je parlais au départ entre le social et l'affectif, bon, je crois que c'est à ce moment-là que vraiment il s'ébauche et qu'il va devenir très intéressant. Et je crois que l'aboutissement justement de toute cette démarche, c'est Let Us Not Press Famous Men.
White in the South. It's like the is, I guess, most other places. They will not
les blancs dans le sud, comme ailleurs, help,
especially the ones who is
ils
turned out to
ne
be
jamais les vagabonds
hobos.
Blancs.
They come to their door for food, they will drive them away.
Les
white tramps, they will drive them away. Well, but their own color, they wouldn't do that for them. Then a Negro woman would say, you know, well, we got some cold food in there. And she said, oh, no, I don't give him nothing.
Vagabond,
he'll be back
exemple,
tomorrow, you know. Negroes
les
always
domestiques noirs disaient, mais à la maîtresse, on a quelque chose pour lui donner. La maîtresse disait, non, non, non,
on
lui donne rien.
Them, you know, to come to our house and give him the address and tell him to come back. That we would give him an old shirt or a pair of pants
mais
or some old
à côté, on lui donnait quand même une vieille chemise, une vieille paire
we
de souliers. Toujours un peu quelque chose à manger.
Now the cat got the measles, the dog got the whooping cough, dog got my soul, dog, dog. The cat got the measles, the dog got the whooping cough. Doggone a man, let a woman be his boss. Doggone my soul. Now I ain't no devil, fall in the lion's den. Doggone my soul, Lord, Lord. I ain't no devil, fall in the lion's den. But my deep walk of faith.
Trois autres maintenant se tenaient dehors. Un enfant avait couru pour les amener. C'étaient des hommes jeunes, 20 à 30 ans, pas plus, néanmoins très vieux et assagis, avec ce teint de suie que nulle lumière ne peut rehausser, et allant avec ce teint des dents bleues et le globe jaune des yeux. Ils portaient des pantalons pressés, des chaussures lavées, des chemises blanches, brillantes d'avoir été empesées, des cravates claires, et ils tenaient à la main leur chapeau de paille blanchie, et à la hauteur du cœur étaient épinglés les rubans mauves et dorés d'une société d'obsèques religieuses. Ils avaient été convoqués afin de chanter pour Walker et pour moi, histoire de nous faire entendre de la musique nègre. Pourtant, nous avions fait tout ce qui était en notre pouvoir pour leur épargner et nous épargner les effets de cette convocation. Et ils restaient là, patients, comme pris dans une frise, tout raidis dans l'ombre de la chenelle, leurs chapeaux et leurs chemises les abritant de la lumière, attendant qu'on leur porte intérêt et qu'on les délivre. Car au moment où l'enfant les avait rattrapés, ils se rendaient à l'église. Et maintenant qu'on les regardait et qu'avait été donné l'ordre, ils firent quelques pas en avant, sans sourire, et s'arrêtèrent, formant une ligne rigide. Et après un échange de coups d'œil gêné, l'aîné marquant le rythme du pied sur le sol, ils chantèrent. Comme je m'y étais attendu, c'était non dans le style euphonique et moelleux du Quatuor Fisk, mais dans le style des Mitchell's Christian Singers. Saccadé, torturé, rocailleux et dur, comme accentué au marteau ou au burin, entièrement empreint d'une vitalité rythmique itérative, paralysante presque, avec des harmonies à rompre les nerfs. Ainsi, dans la musique occidentale, ce sont les deux premiers siècles de polyphonie qui se rapprocheraient peut-être de cette austérité. Mais ici, il s'agissait entièrement d'instinct. Les cassures du chant étaient comme une danse de plantes à l'accélérer. Les chanteurs vivaient comme profondément enfoncés dans la terre. Leurs yeux n'étaient fermés ni ne regardaient qui ou quoi que ce fût. L'aigu rauque du jeune ténor, le baryton strident qui atteignait le plus haut point du registre, la gorge dure comme le poing, et la basse, roulant, eût-on dit, des roues de fer, la main crispée, puis relâchée, accompagnant l'effet des ellipses, la tension et la détente qui vient après. Et abruptement, ce fut le silence, et vierge d'expression, absolue. Le propriétaire froidement souriait. Il n'y avait rien à dire. Je les regardais dans les yeux, avec un respect total et franc, et dis « C'était mieux que bien. Avez-vous le temps de chanter encore une fois pour nous ?»
Jean Mallory.
Edgy est plus qu'un écrivain, c'est presque un prêtre. C'est un homme qui veut témoigner et veut entraîner avec lui ses lecteurs ou ceux qui veulent bien le suivre sur son itinéraire intérieur. Le Lourd Matin les Grands Hommes est un livre que j'ai découvert en 70. C'est le livre pour tout anthropologue, pour tout ethnologue, pour tout journaliste. Lorsqu'on a lu ce livre, on en est traversé et toute une vie est changée. Et je ne m'étonne pas que les milieux que je viens d'évoquer, qui relèvent souvent d'appareils, que je voquerait sous l'expression peut-être sévère de fonctionnaire de la pensée, et milieu que certainement n'aurait pas pu supporter Edgy, qui était un homme seul, sans doute fragile, comme tous les marginaux, très solitaire, et traversé par les sensations de l'instant qu'il pouvait saisir. Je crois que c'est un homme qui s'est posé la question que se pose tout homme qui a à rendre compte d'un autre, qu'est-ce qu'est la réalité? Et Louons maintenant les grands hommes est une réflexion, je dirais pathétique, je dirais plus hallucinée. Dans une grande mesure, ce livre a été écrit la nuit, au rythme de musique, mais surtout impressionné au sens d'une décalcomanie de ce qu'il avait vu et surtout senti.
I know your house feels lonesome. Don't you hear me whooping, oh Lord.
John Huston, mémoire numéro 2. L'attention qu'il savait prêter aux sentiments des autres a été unique dans mon expérience. Je ne pense pas que c'était par souci de les ménager, pas plus qu'il n'en recherchait une quelconque considération. Il n'a jamais essayé de gagner quelqu'un à ses convictions. Il adoptait plutôt l'opinion contraire, peu soucieux de cette absurdité, la défendant jusqu'à ce que la lumière se fasse, examinant toutes ses facettes, comme s'il s'agissait d'un joyau.
When I woke up this morning, I found my biscuit roller done gone.
Voyez-vous, moi qui m'intéresse à d'autres populations que celles décrites dans ce livre, ces paysans de l'Alabama, m'intéresse aux populations hyperboréennes, je retrouve dans Edgy ce que l'on appelle le chaman. Le chaman ne ressent que dans la mesure où il est poreux. Il est perméable. et il faut se placer dans un état second, qui n'a rien à voir avec les états hallucinatoires. Un chaman n'est pas un homme qui va se mettre à fumer de l'opium, connu dans l'Arctique, mais va précisément se mettre à l'écoute, et à une écoute sensorielle. Alors c'est, je crois, une des qualités essentielles de James Agee, c'est qu'il sent. Et j'oserais dire que c'est très rare. Qui plus est, il sent avec, je ne dis pas l'autre, avec les autres, comme le chaman. Un chaman a besoin du groupe, qui lui-même se met en même situation de perméabilité, de perméabilisation, de façon telle que la sensation des Rogers, de toutes ces, de ces deux familles qu'il a étudiées, quatre familles,
une surtout
essentielle, les Rogers. Et il se met à leur écoute, et je crois que c'est l'ensemble des relations indescriptibles, indicibles, qui se passent entre les uns et les autres, ces hommes très pauvres et se battant de façon dramatique contre l'effroyable, la chienne de misère, et cet homme venant avec l'aura de ceux qui viennent de ces hauts lieux que peuvent être New York ou Boston, avec le prestige d'un très grand journal, et il a su se mettre au niveau de ces hommes très très pauvres. Il a donc su entrer dans l'autre. Et je crois que c'est une qualité absolument indispensable pour être un chaman. Je m'excuse d'insister sur ce que j'ai connu, mais je ne suis pas américain, je n'ai pas connu les hommes de l'Alabama, et je ne suis pas journaliste. Par conséquent, je cherche à comprendre comment cet homme est arrivé en si peu de temps. On dit 6 semaines. J'ai regardé à nouveau son introduction, c'est moins de 4 semaines. C'est-à-dire, ce qui, dans une commission du Centre national de la recherche scientifique, le ferait récuser aussitôt. Comment peut-on rendre compte d'une société dans la mesure où on est passé si peu de temps? Je répondrais, tout dépend. Si l'on a une grâce et si l'on a les dispositions pour précisément être à cette écoute. Les fulgurances sont toujours très brèves. Et Edgy nous montre qu'il y a les besogneux, alors ils pourront passer 20 ans. Et puis il y a ceux qui, comme Edgy, et ils sont très rares, c'est la famille de Rimbaud, qui ont précisément cette qualité. Alors cette qualité, elle est double, premièrement sa porosité, mais aussi cette porosité qu'il a pu obtenir des autres. Et il y a là donc une qualité tout à fait exceptionnel, qui fait qu'ils rentrent dans cet autre. Or, ils sont très pauvres. Et ainsi que je l'indiquais tout à l'heure, sa prestance, sa beauté, il relève un peu de cette aristocratie bostonienne, aurait pu établir une distance. Pas du tout. Il se trouve qu'il y a là une dimension autre, qui est une dimension que je qualifierais de géopoétique, qui établit cette liaison singulière entre non seulement les autres qui vont communiquer silencieusement, car il y a très peu de discours de ces hommes, et puis qui vont ajouter à ses propres sensations les leurs, qu'il va capter et recevoir. Mais qui plus est, et il y a là des passages extraordinaires, le lieu parle. Il y a une pièce d'une pauvreté indicible, et et il nous fait parler le mur. Ce mur qui est nu pour tout un chacun et qui a une éloquence, une dramaturgie, parce que il s'est fait parler ce mur. Et c'est ce mur qui a cette dimension. Alors là, vous êtes dans des dimensions que les primitifs connaissent très bien, et je m'excuse d'évoquer à nouveau les hyperboréens, mais c'est tout le chamanisme, c'est toute la préhistoire. Et nous nous retrouvons ici avec ce que l'on appellerait des médiums, mais c'est beaucoup plus. Ce sont ceux qui ont une sauvagerie intérieure. En fait, pour moi, Edgy est dans ses archétypes intérieurs, est un sauvage. Est un sauvage qui sent, ressent et a cette intuition de l'instant, si Shira Bachelard, par exemple, cette intuition de l'instant qui fait que, en une seconde, il ressent tout. Il n'est pas du tout soucieux d'écrire. C'est page 30. Si je le pouvais, à ce point, je n'écrirais rien du tout. Il y aurait des photographies, pour le reste, des morceaux d'étoffe, des déchets de coton, des grumelons de terre, des paroles rapportées, des bouts de bois, des pièces de fer, des fioles d'odeur, des assiettées de nourriture et d'excréments.
Dans l'immédiateté du monde, toute chose peut être discernée par celui qui peut la discerner, et centralement et simplement, sans qu'elle soit disséquée par la science ou absorbée dans un art, mais avec un état de conscience entier, s'efforçant de la percevoir telle qu'apparue, de façon que l'apparence d'une rue, exposée à la lumière du soleil, puisse dans son rugissement atteindre son propre cœur signifiant, comme dans une symphonie, peut-être comme aucune symphonie ne le peut. Et l'état de conscience entier virera de l'imaginer et du réviser à l'effort de simplement percevoir la radiation cruelle de ce qui est.
Dans Le Monde des Grands Hommes, il s'agit en fait de raconter aussi, d'exprimer une idée abstraite, bien sûr, mais alors là, à partir de, comment dire, de gens qu'il a rencontrés, avec qui il a pu passer des journées, qu'il a vu travailler, et c'est donc à partir de l'existence de ces métayers, donc qu'il a rencontrés, qu'il va tenter de faire jaillir la vérité et l'abstraction de cette situation effroyable dans laquelle les métayers de l'Alabama étaient en 1936, donc dans une situation de dépendance absolument totale à l'égard de leurs propriétaires, et de manifester à travers tous les moments les plus ténus, qui peuvent paraître les plus ténus, les moments les plus où les gens sont épuisés, les moments où les gens sont au repos, les moments où c'est le labeur qui emploie la totalité du temps, à travers tous ces moments, à travers les objets, à travers des détails absolument insoupçonnables, comment finalement cette situation de l'exploitation, de la tyrannie que fait peser le propriétaire foncier sur la vie entière d'une petite famille, comment donc cette tyrannie a entièrement imprégné tous les moments de l'existence, tous les objets de leur univers, et c'est donc à partir de ces existences, à partir de ces détails, de ces objets, qu'il va tenter de faire jaillir cette idée, de manifester cette présence et cette donnée qui est insupportable de la tyrannie du propriétaire foncier sur ces existences.
C'est certainement un reporter, la preuve, les pages extraordinaires, et en même temps très intense et très ennuyeuse, si on les lit mal, qu'il consacre au bois, simplement.
Jean Queval.
Le bois de la structure de la maison. Et, mais cette longue description ne peut tenir que parce qu'on est devant un poète. Je veux dire par là deux choses. La première, c'est qu'il est Il est un poète au premier degré. Ensuite, il est un poète avec les mots. Mais je crois qu'il y a ces deux choses chez lui. Il est d'abord quelqu'un qui voit, qui s'imprègne, et qui ne peut pas ne pas écrire. La plupart des poètes, je crois, ne sont pas, en tout cas pas forcément comme ça du tout.
Chaque citadin peut avoir a priori une idée très nostalgique, très reposante, par exemple de la campagne. C'est quelque chose qui, évidemment, dans la situation de ces métayers, n'existe absolument pas. Jamais on ne trouvera la peinture d'une campagne resplendissante, heureuse. On verra une terre parfaitement hostile, on verra des insectes menaçants, on verra un ciel qui n'est lui aussi que l'objet de menaces permanentes. D'ailleurs, Edgy confie un petit peu timidement à un moment dans le livre que les ciels de l'Alabama sont les plus beaux qu'il ait rencontrés. Et en réalité, pour ces métayers, ce ciel n'est que l'objet de craintes permanentes et même l'objet d'une superstition, pratiquement. Alors son idée, c'est donc à travers des images aussi épurées que possible, que tous ces sens parasites que le lecteur, dans la diversité de ses expériences, pourrait, par lesquels, sens parasites par lesquels il pourrait se laisser emporter, son idée, c'est qu'aucun de ces sens parasites ne puisse arriver. Ce qui donne donc des images où il y a tout au moins des descriptions. Description, c'est pas le mot qui correspondrait, puisqu'il s'en défie. Mais enfin, c'est des peintures de ces moments de travail ou de ces lieux comme les intérieurs, où aucun sens second, on pourrait dire, ne puisse jaillir. Je crois qu'au fond, l'idée qui le guide, l'idée qui le et son procédé de généralisation, si on peut dire, part d'une idée qui est finalement peut-être pas très 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 extraordinaire, mais que peu de gens utilisent, en tout cas peu de gens mettent en pratique, c'est que dans chaque existence, il y a de l'unique et de l'universel. Au sens où l'existence de cette famille est soumise à une règle finalement universelle qui est celle de l'oppression, mais ce qu'il y a d'unique, c'est la façon dont l'oppression de ces propriétaires fonciers en Alabama en 1936 s'exerce, et que l'universel ne peut être porté que par l'unique. C'est-à-dire par ces moments, ces situations, ces lieux qui sont entièrement imprimés par cette situation de dépendance. Je crois que c'est ça qui lui donne tant de scrupules et tant de minutie, et finalement qui le mène à faire des images d'un dépouillement, on pourrait peut-être presque dire d'austérité, mais en réalité c'est pas du tout ça.
La maison et tout ce qu'il y avait dedans est maintenant redescendu. Elle se tient en profondeur au-dessous de la spirale que graduellement elle a traversée, elle-même enfouie. Elle gît formelle, soumise à l'ordre d'une entièreté de silence. Dans la pièce en bois de pin carré qui est à l'arrière de la maison, voici les corps de l'homme de 30 ans et de son épouse et de leurs enfants, étendus sur les matelas peu fournis de leur lit de fer et sur le plancher rigide. Et ils dormaient, et dans le corridor, le chien gisait endormi. La plupart des humains, la plupart des bêtes et des oiseaux qui vivent dans l'orbe protecteur du monde humain, et une grande partie de toutes les tribus d'êtres vivants ramifiés sur terre et sur l'eau et dans les airs et à travers la moitié du monde, tous s'étaient abattus dans le sommeil. Dans le monde passager, une fascination recouvrait depuis quelques heures cette région de la Terre. C'était l'ombre morte et régulière de la planète même, et nous donnions de la bande vers les dernières profondeurs. Et maintenant, à travers le soleil obstrué, apparurent ces décharges de lumière qui nous enseigne le peu que nous savons sur les étoiles et la nature vraie de notre entourage. On ne percevait plus aucun bruit, d'un tic-tac ou d'un affairement dernier décor, à travers la structure de la maison. Rien maintenant que le squelette de bois suspendu par des ongles, comme un Christ abandonné. Plus rien des bruits des humains qui sombrent et s'affaissent dans leur position nocturne, dans un doux effondrement, vaisseau d'une fatalité. Les corps et les cerveaux dans cette famille humaine ont traversé les étapes ultimes de la fatigue, du déharnachement, et ils en sont aux premières phases du sommeil. S'est éloigné aussi le sens même de ces bruits. On ne discerne pas le souffle ou le sens d'une respiration. Os et os, sang et sang, vie et vie, disjoint et abandonné. Ils gisent, gravés dans une retraite si ultime, l'atteinte des rêves ne paraît pas plausible. Poissons faisant halte au plein milieu de la mer aveugle, endormis sans paupières, pourvus de lentilles. Leur respiration, leur subsistance dormante, les soins sans effort qu'ils prennent des plantes ignorantes. Entièrement silencieux, dormeurs, planètes délicates, bercées dans l'ombre, murées dans la nuit, automne d'une action, peine d'un bref hiver, trou d'eau où les faibles bêtes sauvages se rassemblent. Nuit, nuit, sommeil, sommeil.
Getting late on this Sunday evening. Poor Lightning gotta go home and take him some rest. Getting late on this Sunday evening. Poor Lightning gotta go home and take some rest. You know I got to pick cotton tomorrow and Monday. Little girl, you know that's gonna be a solid bet.
Tard le dimanche soir, il faut que le pauvre Lightning se repose. Demain lundi, il faudra que j'aille cueillir le coton. Petite fille, c'est gagné d'avance. Je ne pèse pas plus de 45 kilos. 50 kilos, c'est une charge trop lourde à porter. Quand je veux me relever, j'entends « Baisse-toi, Lightning, vas-y, mon garçon, et remplis ton sac. » De coton, qu'il voulait dire. Dans le champ, je me relève et je me cherche un coin d'ombre. Ma pauvre maman est assise avec un crayon et du papier pour noter chaque centime que la famille gagne.
I don't weigh but 90 pounds, boy. 100 pounds is too much load for me to pull.
Peut-être qu'avec Edgy, nous nous retrouvons dans ces temps premiers où l'essentiel, c'est le geste, c'est le signe, c'est un mouvement, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie du geste, pour parler en jargon. Il y a là toute une approche qui a été celle des trois quarts de l'histoire de l'homme, où le mot n'avait aucune importance. Oserais-je dire, il en avait tellement qu'on savait qu'il avait des pouvoirs, c'était des mots ailés, et qu'on se réfrénait, on évitait de les dire car on savait qu'ils avaient des pouvoirs sacrés. Et ces mots étaient des mots chargés de signification. Je dirais, ululement est un mot qui relève peut-être encore de ces temps premiers, où le son a une portée acoustique. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que nous n'entendons plus, car hélas, sont passés les géomètres de l'esprit, tous ces arpenteurs qui ont créé une algébrose. Et dans ce monde de l'abstraction, nous ne nous retrouvons plus, si ce n'est par le truchement de ce décodage que constitue notre esprit. Or, Edgy a cette extraordinaire faculté par son contact. Et qu'est-ce qu'on appelle un contact ? C'est qu'il reçoit. Et il reçoit l'autre qui sait qu'il n'est pas trahi. Et les autres l'ont senti parce qu'il avait... Alors, on vous parlera de parapsychologie influe. Non, c'est parce qu'il reçoit. Et que les autres, à ce moment-là, le reconnaissent comme un frère.
Si on fait un parallèle philosophique, il y a dans sa conception quelque chose qui était finalement assez contemporain de lui. Il serait proche de cette idée de la fusion du sujet et de l'objet dans la connaissance, quelque chose qui donc se retrouve assez bien dans l'école de Francfort, Adorno ou Benjamin ou même Lukács. C'est quelque chose donc qui lui est considération de l'univers social, de tout un de la vie des gens, pour parler très simplement, comme un objet d'étude. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un objet posé devant. Il intervient, lui, dans une relation d'observateur, effectivement, mais avec toutes ces restrictions dont j'ai déjà parlé, et qui finalement font que chaque moment, chaque geste, finalement, n'est peut-être pas à tout moment, ne vaut pas le coup d'être divulgué. Il n'y a pas lieu de le rendre public, mais par contre, certains sont particulièrement lumineux, particulièrement éclairants, et ils ne sont pas par eux-mêmes particulièrement éclairants, mais parce que lui-même a fait le tri dans cette situation qu'il semblait déjà a priori, lorsqu'il s'est trouvé confronté avec, particulièrement éloquente, et que après avoir déjà fait cette sélection dans tout ce qui se passait, il fait en plus un tri, une épuration dans ce à quoi il assiste, et on peut dire que c'est une opération de type d'une sorte de condensation de tous les éléments qui sont dans le champ visuel, et il ne retient à ce moment que ce qui est parfaitement nécessaire à la relation, à manifester cette idée donc de soumission. C'est tout.
Il y a là dans ces répétitions comme un souci de retrouver le dernier mot qui le fait avancer comme un mineur dans sa sape vers cette petite lueur qu'il sent au bout du tunnel, et où il y a là le noyau dur de cette réalité qu'il cherche. Je crois que ce « Louons maintenant les grands hommes » est un livre qui a une ambition d'objectivisme parce que il veut trouver encore une fois, pardonnez-moi mon jargon, ce signifiant, qui fait que cette réalité est celle-là et pas une autre. C'est tout le problème de l'identité. Et je crois que nous trouvons ici son frère dans ce combat, ou du moins celui dont j'aurais tendance à le rapprocher le plus, c'est Rimbaud. C'est Rimbaud dans une saison en enfer, à Charleville, se battant dans son grenier, et Louons maintenant les grands hommes aurait pu être intitulé, par ce vers dramatique pour nous autres écrivains, j'ai brassé mon sang, mon devoir m'est remis.
Si on essaye de se représenter ce que peut être l'épreuve épouvantable de ce qu'est le travail du paysan, on penserait tout de suite à des images qui sont précisément celle du travail, celle des gestes du travail sous un soleil écrasant, avec une terre desséchée, la menace des insectes, la menace de la grêle, la menace du ciel. Or lui, ce qu'il va choisir pour montrer ce qu'est la réalité, l'intensité l'effroi que peut représenter tout ce travail extrêmement dur, c'est justement une image qui est paradoxale avec cette idée, c'est celle du non-travail. Et il fait deux, trois pages qui sont extrêmement lumineuses sur ce moment-là. Et il a sélectionné précisément ce moment où, dans le travail du coton, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire les quelques dernières semaines où le coton est presque à maturité, mais où il n'y est pas encore au stade de la récolte. Et pendant ces quelques semaines, le métayer est assis sous son porche. Et il parle du métayer assis sous son porche. Et pendant ce temps-là, la nature fait son propre travail. Et c'est là qu'il entame toute une peinture de l'hostilité de la nature.
Thank you.
Mémoire 3, W.H. Oden. Je suis soupçonneux à l'égard de la critique, comme le genre littéraire qui, plus que tout autre, recrute des épigones. Et pourtant, je me surprends moi-même, non seulement à lire M. Hadji avant tout autre rédacteur de The Nation, mais aussi à attendre patiemment la fin de semaine pour le lire à nouveau. Selon moi, ces papiers sont l'événement périodique le plus remarquable du journalisme américain d'aujourd'hui.
Quand il part faire ce reportage fastueux, incroyable, interminable, ennuyeux, magnifique, unique, splendide à tous égards, sa bête noire, c'est le journalisme. Il est le journaliste à contre-cœur. En même temps, il est l'intellectuel qui se méfie des intellectuels. Donc j'ai l'impression qu'il était sûr que tout le monde se trompe tout le temps. Et que les élaborations intellectuelles pures ne conduisent nulle part. Après, tu n'es peut-être pas tort. Sa bête noire, c'est le journalisme, oui, parce que ça, c'est son côté objectivement, comme disait marxiste, objectivement anticapitaliste. C'est le grand groupe Tramlach qui l'envoie faire ce reportage, et il est outré par différents aspects. Il est outré à l'idée même d'un reportage pareil. Par exemple, il se dit qu'on va violer le domicile de ces pauvres gens pour vendre du papier, pour les mettre en valeur, pour provoquer une sensation triviale chez le lecteur. Et tout ça, ce n'est pas jouer le jeu. Ce n'est pas jouer le jeu, c'est de l'anti-jeu. Mais en même temps, il veut tout, il refuse tout. Il dit qu'il ne veut pas faire un livre, et qu'un livre il a fait, mais il dit qu'il ne veut pas faire un livre. Il est très insistant là-dessus, surtout au début, puis après il fait quand même un livre, bien sûr. Il dit que la photo est très très importante. Il ne sait pas quelle forme donner à ce livre, puisque finalement il fait quand même un livre. Bref, il se pose toutes les questions avec ce côté brûlant et éblouissant de la 20e année. À ce moment-là, il a 27 ans, je crois.
Pour moi, la découverte d'Hadji, c'était ça. Ça a été la découverte d'une nouvelle manière de faire du journalisme. Et que ça ait eu lieu il y a maintenant 40 ans, ça me paraît quelque chose de fondamentalement neuf, vraiment nouveau. Jusqu'à présent, le journaliste était condamné à une condition de voyeur. C'était quelqu'un qui observait les choses comme à travers une glace.
Pierre Le Pape.
Il disait, il se passe telle chose, qui pouvait donner en plus son appréciation personnelle, mais comme quelque chose de supplémentaire à ce dont il parlait. Avec Hadji, tout cela est complètement pulvérisé, et ce dont il parle, c'est et de lui, et des autres. Et lui et les autres étant finalement sous le même ciel, dans la même planète, étant le sujet entier du reportage. Toute l'écriture qui se fait tout de suite dans la presse américaine, en grande partie, ça commence un peu dans la presse française, n'est pas encore arrivé au bout de l'audace et de la démarche d'Hadji, parce que on pense encore que les lecteurs ne sont pas capables de recevoir ceci. Bon, les directeurs de journaux pour lesquels travaillait Hadji le pensaient également, puisque finalement, ils n'ont pas entièrement publié ces reportages. Il y a une seconde révolution que réclame la démarche d'Hadji, c'est que les lecteurs eux-mêmes cessent de considérer le journal comme un objet également qu'on lit, et qu'ils s'impliquent également dans l'écriture. Je veux dire que c'est une double révolution. Il y a une révolution du journaliste par rapport à son objet, entre guillemets, et une révolution du lecteur par rapport à ce qu'il lit dans le journal. Hadji demande les deux choses. Il demande aussi que le lecteur se mette à la place de l'objet et du journaliste. Alors la première chose est faite, la seconde n'est pas encore faite. Le travail qu'a fait Hadji, la réflexion qu'il a faite sur son propre travail, l'a amené à comparer sa propre situation, la situation des paysans, et à englober enfin toute cette matière dans un grand champ lyrique. Que ce qui l'a guidé dans la composition de son livre, ce sont les grands champs bibliques. C'est-à-dire que ce qu'il a retrouvé, c'est l'ensemble de la condition humaine. Donc c'est pas quelque chose que l'on peut écrire calmement, que l'on peut lire calmement. C'est quelque chose d'intensément, de profondément lyrique. Par conséquent, quelque chose qui non seulement pourrait être lu à voix haute, mais même quelquefois chanté. Et je crois que c'est plus proche du chant, et précisément peut-être de ces chants que les paysans murmurent ou hurlent dans les champs de coton, que de la simple lecture tranquille et paisible. C'est un livre qui est tout le contraire d'un livre paisible, c'est un livre qui hurle.
Il en est à ce point pathétique qu'il veut nous entraîner avec lui, car on n'écrit pas impunément. Autrefois, vous le savez, au Moyen-Âge, avant d'écrire, c'est sacré, une écriture. On s'agenouillait. Eh bien, lui a une dimension qui n'est pas du tout religieuse, mais qui est une religieuse au sens chrétien du terme, mais qui est une religion humaine quasi universelle. Cette pauvreté est inacceptable de penser que des hommes avec tant d'intelligence, des génies cachés, sont réduits à cette obscurité, sont réduits à ce silence, lui paraît insupportable. Et il veut faire partager sa violence à son lecteur.
Deuxième mélodie de Samuel Barber, mais cette fois sur des vers de James Hadji. Sure, on this shining night, dans la nuit claire.
Du courage face à la défaite. C'est une qualité dont l'animal humain a besoin pour survivre.
John Huston.
Même si c'est un courage sans espoir.
If he's going to survive. Just courage when there's no reason to be brave. I mean when there's no
courage
when it's a hopeless
quand il n'y a aucune raison d'être brave.
Il est fasciné par la personnalité de Huston. Il écrit d'ailleurs un article qui est un très très beau portrait de Huston. Et plus tard, il travaille avec Huston en Californie. Et il suit Huston, il est médusé aussi. Et je crois qu'il y a beaucoup d'affinités entre eux parce que Huston a la même nature un peu excessive, aimant boire et manger, travaillant à des heures très irrégulières, aimant la vie. Et je crois qu'Eiji a beaucoup partagé ça avec Houston. Il y a chez Eiji un mélange de rigorisme presque puritain, de moraliste et puis de presque débauché. Il aimait beaucoup vivre et il aimait tout ce qui pouvait être des excès, aussi bien dans sa vie amoureuse, dont on n'a pas parlé, mais qui a été très très tourmentée. Il a eu trois femmes, mais il a eu très nombreuses aventures et il n'a jamais, il a toujours été obsédé par le fait que l'amour, ça pouvait être... Il y avait toujours des trahisons possibles. La trahison viendrait toujours soit de lui, soit des autres. Et aussi par l'idée que... Je crois qu'il a beaucoup associé, si vous voulez, l'idée de l'amour et de la mort aussi. Et il a été obsédé par la mort et justement par l'idée de meurtre aussi. Je crois qu'il y avait une part peut-être, enfin, de les fantasmes, on sait bien que l'écriture sert aussi à cela, mais on sait aussi que plus tard, il a été obsédé par l'idée de sa propre mort. Et lui-même a confessé, puisqu'il s'agit plutôt de confession, ou confier, enfin, à la fois confession et confidence, ses lettres à Firefly, qu'il avait été assez tenté par l'idée du suicide. Et plus tard, quand il travaille dans le Chrysler Building, qui était un des grands gratte-ciel de New York, à je ne sais quel étage, c'est des amis d'Eiji m'ont confié qu'un jour, en entrant dans le bureau, ils l'ont trouvé pendu à la fenêtre. Il essayait de voir, et c'est ça, sa morbidité, ce que ça donnait d'être suspendu comme ça, au-dessus des rues de New York, au 45e étage. Quelle impression ça faisait, et s'il aurait un jour le courage de faire le saut. Il a d'ailleurs écrit quelque chose sur le suicide d'un jeune adolescent, et on voyait à quel point il s'identifiait. Et lui-même a eu toujours... Bon, il a été très dépressif, il a eu des périodes très dépressives dans sa vie, c'était enfin quelqu'un de très cyclique, qui était très enthousiaste, très actif et tout, puis qui passait aussi par des périodes de dépression. Il a été obsédé par la mort, et toujours en relation avec les de la mort de son père. D'ailleurs, je crois qu'il est mort accidentellement dans un taxi à New York en allant voir son cardiologue. Le jour même de l'anniversaire de la mort de son père. Et pour, je crois que ça lui aurait plu de savoir qu'il allait mourir comme ça à une date qui avait une signification symbolique. Et beaucoup d'amis, enfin, ont dit qu'il s'était si mal soigné dès qu'il avait eu ses premières crises que finalement, n'acceptant jamais, il y a toujours une espèce d'outrance chez Eiji, d'exagération de tout, et dans son mode de vie comme dans son écriture. Il buvait beaucoup, il fumait beaucoup, et les médecins pouvaient lui dire de modérer un peu, de vivre autrement, de dormir plus. Il voulait vraiment vivre au maximum, et peut-être jusqu'au point où la vie rencontre la mort.
Il était quelqu'un qui consommait beaucoup de matière grise, qui mangeait son système nerveux, qui se répandait comme ça avec beaucoup d'alacrité, générosité, folie, cherchant la réplique, cherchant quelqu'un qui lui dirait quelque chose. Dieu peut-être.
Mémoire 4, Charlie Chaplin. J'embarquais sur le Queen Elizabeth à 5h du matin pour la sordide raison que je devais éviter les huissiers porteurs de convocations éventuelles. J'étais ignominieusement fermé à clé dans ma cabine à regarder par le hublot. « C'est moi, » dit Ohana en frappant à la porte. J'ouvris. « Jim Hadji vient d'arriver pour nous dire au revoir. Il est sur le quai. »
je lui ai crié que tu étais caché pour éviter les huissiers et que tu lui ferais signe par le hublot. Le voilà au bout du quai, dit-elle. J'aperçus Jim, un peu à l'égard d'un groupe de gens, debout, sous un soleil brûlant et qui scrutait le bateau. J'ôtai précipitamment mon chapeau, je passais le bras par le hublot et je l'agitais tandis qu'Oana regardait par l'autre hublot. « Non, il ne t'a pas encore vu, dit-elle. Il ne me vit jamais. Et ce fut la dernière image que je gardais de Jim, debout, tout seul, comme à l'écart du monde, le regard aux aguets, scrutateur. » James Adji, biographie, Olivier Keplin, Mehdi El Hadj. Nuit magnétique, Martine Laudignon, André Guibert, Francis Lefebvre, Jean-Michel Rod. Mehdi El Hadj, Olivier Keplin, bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 janvier 1981. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Regarde là ma ville, elle s'appelle les bidons. Bidon, bidon, bidonville, vivre là-dedans, c'est coton. Les filles qui ont la peau douce, la vendent pour manger. Dans les chambres, l'herbe pousse pour y dormir. Faut s'épousser, les gosses jouent, mais les ballons, c'est une boîte de sardines. Bidon, bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut s'y croire égaux. À quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours, toujours bidon.
Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays. J'ai dit au revoir, j'ai dit...